En plus, vous cassez la forme de l'élément tel qu'il se présente à vous pour en tirer l'énergie qui ne pouvait pas venir jusqu'à vous si elle ne s'était pas travestie par cet élément. Et c'est là où vous devez faire une grande correspondance avec la raison de votre propre incarnation. Tout s'incarne. Vous croyez être les seuls à vous incarner? Tout s'incarne. Lorsque l'énergie du soleil veut venir vers vous, elle est obligée de s'incarner dans des molécules. Même si c'est son destin, c'est d'être du prana. Après, c'est à vous de casser la forme pour obtenir le prana. Donc l'homme tue tout à chaque instant. Que ce soit pour respirer, que ce soit pour voir et absorber les couleurs, que ce soit pour boire de l'eau, absorber des aliments. Il tue tout. Êtes-vous en souci quand vous respirez? Non. Avez-vous l'impression de tuer quelque chose? Non. Et vous allez me dire, mais briser une molécule, c'est quand même pas pareil que de tuer un agneau. Alors je vous dis, mais c'est la même chose. Tuer une molécule ou tuer un groupe de millions de molécules qui constituent un agneau, c'est tuer la molécule. Ce n'est pas tuer une molécule et tuer un agneau. C'est briser des molécules, c'est tout. Que ces molécules s'amusent à être un agneau, c'est une chose qui ne rentre pas en ligne de compte dans le jugement. Car la base de la vie, ce n'est pas l'agneau, c'est la molécule. Donc, si l'homme, pour vivre, est sans cesse, toujours en train de tuer quelque chose, c'est que la mort fait partie de la vie et que peut-être, peut-être bien que la mort, ce n'est pas la mort et qu'il n'y a rien qui meurt. Ça y est, j'ai compris. Rien ne meurt. Tout passe simplement d'une forme à une autre. Tout subit des incarnations différentes et pendant le laps de temps où une chose est incarnée d'une façon spécifique, si elle peut servir au maintien d'une autre vie, alors sa forme est utilisée pour le maintien de l'autre vie. Comme c'est beau. Ça, c'est de l'amour. Ah, ça, oui. C'est même un amour plus grand que l'amour du Christ ou que l'amour de tous les dieux que l'on pourrait imaginer. Car Dieu, lui, il n'a pas l'air d'être ici. Alors que cet agneau qui se sacrifie pour moi, lui, il est là, lui, il me donne. Alors que cette terre qui se sacrifie pour moi, lui, il est là et lui, il se donne à moi. Mais quand je sais que c'est Dieu qui est à travers toutes ces choses, je vois là, partout, le geste d'amour de Dieu et je ne me sens pas seule. Et je ne peux plus me sentir malade. Je ne suis pas malade. Comment est-ce que je pourrais être malade si je respire par l'air la divinité qui est dans l'air? Il me suffit d'être conscient de cette divinité qui est dans chaque molécule que je vais casser par mes poumons et par l'activité des poumons. Et il me suffit d'être conscient que je suis en train de respirer des particules divines pour me remplir de divinité et en quelques jours être Dieu moi-même. Ou en tout cas, commencer à l'être. Et quand je me nourris, il me suffit de savoir que ce n'est pas un agneau que je mange ou du pain que je mange, mais que c'est la forme, sous la forme du pain et sous la forme de l'agneau, c'est la forme de Dieu que je mange. Et dans la forme de Dieu, l'Esprit de Dieu. Donc toute la vie devient une messe. Qui vous a dit que vous deviez aller à la messe tous les dimanches? Personne. En tout cas, pas Dieu. Par contre, les hommes de Dieu ont vu que, puisque l'homme vivait si différemment de Dieu, du Dieu qu'ils sont, puisque l'homme vit tellement à l'opposé de la divinité, eh bien, il faut au moins une fois par semaine l'obliger à être un dieu. Au moins ça, pour qu'il ne s'oublie pas trop et qu'il ne s'abîme pas dans les ténèbres. Alors les doctes, de l'Église vous ont dit, venez partager l'hostie, le corps du Christ, l'Esprit de Dieu, le dimanche. Et ceux qui ne savent pas bien réfléchir se disent, mais je ne peux pas recevoir Dieu un autre jour que le dimanche, parce que monsieur le curé doit me donner l'hostie. Et de la même façon, un occultiste va déformer tout autant la vérité en disant, mais je ne peux pas recevoir l'énergie de Dieu si je n'ai pas mon épée pour l'appeler, si je n'ai pas un réceptacle pour la recevoir. Et ce réceptacle, c'est mon rituel. C'est l'homme qui met toujours les barrières. Toute la vie est une messe et toute la vie est un rituel. Si tu as les yeux pour voir la messe à chaque instant et être toi-même le prêtre de la vie, pourquoi attendre qu'un autre soit ton prêtre, ton curé, ton maître, ton Dieu ? Tu n'arriveras à rien. À rien, je te le dis, tu es dans l'erreur la plus complète. Et en même temps que tu nous pries et que tu veux nous voir, tu te places à des distances incalculables, loin de nous. Tu es celui qui veut le plus nous voir et parce que tu penses que nous sommes des maîtres et que nous devons nous rencontrer, par là même tu te places hors de notre portée. Tu es ton propre prêtre, le prêtre de la vie. Quand un prêtre fait la messe, il ne fait rien d'autre que de célébrer la vie. Et il te donne la vie, il partage la vie. Tu absorbes la vie et la vie en toi peut créer son règne. Pourquoi est-ce qu'il doit te donner la vie? Parce qu'ayant touché les ombres, tu es devenu la mort. Et c'est pourquoi Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts. Alors, en te faisant croquer la vie au moins une fois par semaine, ou quelquefois dans ta vie, la loi espère que Dieu, ce Dieu qui est parti loin d'elle pour vivre l'aventure de la terre et de la forme, la loi espère que ce Dieu va retrouver ses esprits et revenir près d'elle. Comme la femme, l'épouse qui attend le retour d'Ulysse. Alors, je te le dis, il n'y a pas plus d'importance à la lune du Vésac qu'à la pleine lune des haricots ou des pois chiches. Si tu es un haricot ou un pois chiche, eh bien, toute pleine lune du Vésac que ce soit, ce sera pour toi de toute façon la pleine lune des haricots. Parce que c'est ta pleine lune à toi. Ce n'est pas la pleine lune du Bouddha. C'est bien que tu t'intéresses à ces choses-là, c'est bien que tu commences à y penser. Je favorise ces choses. Mais en même temps que je te le dis, que cela existe, pour que tu sois juste et vrai, je dois te dire, cela n'existe pas. Et non pas parce que la chose n'existe pas, mais parce que l'interprétation que tu en as faite, sitôt que je t'ai dit la vérité, cette interprétation-là était fausse. Et donc, tout de suite, transforme la vérité en erreur. Alors que je te dévoile la vérité, toi tu la revoiles. Arrête. À quoi cela sert que je dévoile si tu revoiles? Regarde tel que je te le dis. Ne pense plus, n'interprète plus, ne projette plus. Sois comme l'enfant, simple d'esprit. Cette pleine lune est ta pleine lune. Pourquoi ce n'est pas la pleine lune du Bouddha? Pourquoi est-ce que c'est la tienne? Ce n'est pas plus la pleine lune du Bouddha que de qui que ce soit d'autre. C'est la tienne parce que c'est toi qui es Bouddha. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est Bouddha à ta place. Il y a beau y avoir au bout de la pleine lune un être magnifique que l'on appelle Bouddha, qui a été Bouddha. Lui-même ne vit pas cette pleine lune comme étant l'aboutissement de la pleine lune, la cause de la pleine lune. Lui-même ne veut pas que votre méditation soit faite pour le joindre, pour le toucher, pour le voir, pour le sentir, ou pour entrer en communion avec lui. Lui-même veut que vous vous mettiez en méditation à ce moment-là, parce que c'est comme cela qu'il arrivera à vous faire comprendre que vous êtes Bouddha, que vous êtes lui-même, que vous êtes de la même essence. C'est le jour qu'il a choisi, parce que les énergies, les axes planétaires le permettent. C'est le jour qu'il a choisi, en fait, non pas pour s'offrir à vous, être disponible à vous, mais pour que vous, vous vous rendiez disponible à vous-même. Et étant donné qu'il est cette autre partie de vous-même, semblable à vous-même, il veut agir comme un miroir. Et il dit, je vais venir comme un grand miroir. Et ainsi l'homme qui est pur et l'homme qui est prêt, parce qu'il conçoit noblement les choses, sans illusion ni fantaisie, celui-là va se voir dans le miroir que je suis. Et il ne me verra pas moi, mais il se verra lui. Alors arrêtez de croire à toutes ces pleines lunes, à tous ces solstices ou ces équinoxes. Croyez à ces moments, car ce sont des moments vibratoires qui existent, mais utilisez-les intelligemment pour être utile aux autres hommes. Ça, oui, c'est du travail. Mais ne commencez pas à imaginer que là, il y a comme une échelle que Bouddha, en passant, vous envoie. Et autant il y aura de barreaux à l'échelle, autant il y aura de personnes qui pourront espérer voir Bouddha ou communier avec Bouddha, avec l'énergie bouddhique, en tout cas, comme l'on parle de l'énergie christique. Il n'y a pas plus de portes ouvertes ou d'échelles lancées qu'il n'y a de vérité dans ce que vous imaginez. Tout est miroir. Les grands êtres ne viennent pas sur Terre ou à proximité de la Terre pour que vous les regardiez. Les grands êtres viennent comme des miroirs pour être la révélation de ce que vous êtes vous-même vraiment. C'est ce qui fondamentalement caractérise le Maître. Et c'est ce qui fondamentalement renie l'existence du Maître. Parce qu'un maître ne se dit pas un maître. Un maître ne prétend pas être un maître. Il connaît trop la vérité pour pouvoir même jouer avec ces mots-là. Le maître sait qu'il est tout simplement arrivé à l'instant de sa vie où il sait qui il est. Maintenant que vous vous appeliez cela un maître, c'est votre affaire, mais ce n'est pas notre affaire. Vous êtes vous-même tout autant des gens capables de savoir qui vous êtes. Si donc nous sommes des maîtres, vous en êtes aussi. Il n'y a pas de demi-mesure où tout est Dieu ou rien n'est Dieu. Il ne peut pas y avoir un Dieu quelque part, un homme en bas et des maîtres au milieu qui essayent de faire la jonction. Et puis, pour rendre la chose un peu plus romantique, peignons par-ci par-là des petits anges qui apportent le courrier à la Vierge Marie. Parce qu'il faut penser au courrier. Ben oui. Voyez les choses absolument. Avec cet absolu qui caractérise la vérité. Et vous n'avez pas besoin d'être des initiés pour voir avec absolu. Vous devez simplement vous méfier de votre mental, de vos interprétations, de tous ces reflets d'ombre et de lumière sur le mur de votre mental et de vos rêves. C'est de cela qu'il faut prendre garde. Ce n'est pas de savoir ce que vous devez faire pour évoluer. Vous devez savoir ce que vous ne devez plus faire pour être Dieu. C'est complètement différent. Beaucoup de disciples viennent vers moi, que ce soit la nuit ou le jour, et me disent « Mais dis-moi ce que je dois faire. » Non seulement pour être disciple, mais pour travailler à mon initiation, et pour être ton prophète ou ton guérisseur, ou bien pour être le moyen par lequel tu rayonnes ton amour, pour être à ton service. Dis-moi ce que je dois faire. Alors je les regarde, je les écoute et je leur dis désespérément « Mais tu n'as rien à faire, absolument rien. Par contre, il y a des choses que tu ne dois plus faire. » Et ça, c'est beaucoup plus difficile que de faire quelque chose. Parce que lorsque l'homme est prisonnier de la matière, et lorsqu'il est prisonnier surtout aussi de son mental, l'homme devient une véritable machine à fabriquer. Fabriquer des idées, fabriquer des actions, des réactions, des comportements. Alors, lorsqu'il, par hasard, sur la voie, un jour il devient disciple, il se dit « Bon bien, alors le disciple, il faut que je le fabrique, parce que je suis le contraire de Dieu. Alors je vais méditer, alors je vais répéter des incantations, des évocations, des mantras, je vais cultiver des qualités, et comme cela, je deviendrai Dieu. » Puisque je fais quelque chose, je serai Dieu. C'est faux. Encore tout à l'heure, je vous l'ai dit, je ne sais pas si véritablement, en fait, le chevalier blanc est si blanc que ça, parce qu'il traque le chevalier noir. Mais peut-être sont-ils tout simplement gris, tous les deux, et qu'ils s'amusent à un jeu imbécile. Il y a une fois, j'attrape, et une fois je suis l'attrapé. Donc, il n'y a rien que vous devez faire pour être Dieu. Par contre, il y a de nombreuses choses que vous ne devez plus faire. Ce qui vous permettra, comme un ballon montgolfière, d'être coupé de la terre, de larguer les amarres, et de devenir dans le ciel, par l'effet de la réverbération, une petite étoile. C'est ce que je vous propose d'être. Et non pas parce que demain vous allez vous mettre à faire de gros efforts, mais parce que ici et maintenant, vous allez cesser vos efforts. Cessez les efforts. Le blanc n'est pas meilleur que le noir. Et le noir n'est pas mauvais par rapport au blanc. Le noir et le blanc sont des pauvres êtres prisonniers de leur folie. Pour ne plus être fou, soyez un, soyez réel, soyez le prêtre de la vie. Donc, je vous propose la solution de la facilité la plus grande. Et comme c'est bien en fait, et enfin, d'avoir une voie facile. Il y a tellement des voies qui sont difficiles. On doit faire ceci, on doit faire cela. Ce n'est pas inutile. Si l'on fait ces choses en sachant que l'on n'a pas véritablement à les faire, et que ce n'est en tout cas pas la divinité qui doit faire ces choses, mais la forme seule et seulement. Parce que cette forme devra faire des choses, elle devra méditer, elle devra se purifier. Mais ce n'est pas pour devenir Dieu. La conscience, elle, n'a rien à faire, elle est Dieu. Par contre, la forme devra faire certains exercices pour être l'autel, le temple de Dieu. Ça oui, mais vous-même, vous n'avez rien à faire. Et si vous comprenez les choses de cette façon-là, dès demain, vous pouvez être Dieu. Dès demain, vous pouvez être ce rayonnement. Et dès demain, vous allez trouver par là même la force de faire vos ascèses, de changer ce qui ne va pas en vous. Parce que ce n'est plus vous qui allez faire un effort sur vous-même, mais Dieu qui va manipuler sa substance. Et il saura vous donner tout le courage, tout le motif et toute la joie qui va avec. Il n'y aura plus d'efforts tristes. Il n'y aura que des mouvements de joie, de libération. Ne faites plus d'efforts. Souriez aux ombres et aux lumières. Souriez et trouvez la liberté. Sourire, c'est commencer à être libre. Je vous le dis. Et puisque je parle tant de liberté, je vais vous la rendre. Je vous salue. Sachez qu'en moi, il y a non pas simplement la disponibilité du cœur, mais il y a aussi toute l'éternité qui vous ressemble et qui vous rassemble. C'est-à-dire que je ne suis pas un être différent de vous, qui vit à part de vous. Je vis en vous, je suis en vous et vous êtes en moi. Chaque être qui découvre sa divinité découvre par là même qu'il ne vit pas pour lui-même, en lui-même. Mais qu'ayant découvert sa divinité, il se rend compte de la divinité de tous les autres êtres. Et il vit cette divinité, celle des autres, autant que la sienne. C'est pourquoi, en même temps que vous devenez extrêmement individuel, puisqu'il faut quitter le collectif, qui est un brassage informe, en même temps donc que vous devenez le plus individuel, parce que vous pouvez dire « je », vous pouvez prendre vos propres décisions sans être influencé par le collectif, par la mode, c'est à ce moment-là que vous basculez complètement dans l'universel. C'est donc au moment où vous vous êtes libéré des griffes de la collectivité et que vous vous trouvez dans le tunnel de l'individualité où il y a la décision propre et que vous basculez alors dans l'universalité. Parce que l'individualité n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un but, c'est un tunnel, comme le tunnel de la naissance. Il y a donc la vie divine, la vôtre, la mienne, la nôtre, qui va de la collectivité à l'universalité. Et entre-temps, eh bien, il y a un petit moment qui s'appelle individualité. Et c'est vous, c'est moi, ce que j'ai pu être, ce que j'ai été. Mais vous n'avez pas à en rester là, d'ailleurs vous ne le pouvez pas. Vous allez du collectif à l'universel. Et c'est la même chose. C'est le serpent qui mord sa queue, c'est le cercle qui se ferme. Mais dans la vie collective, la divinité n'est pas consciente d'elle-même. Dans la vie universelle, la divinité est consciente d'elle-même. Et pour reparvenir à cette conscience d'elle-même, la divinité qui était tombée dans la collectivité doit passer par l'individualité. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, cela vous fait un bon sujet de réflexion et de dialogue entre vous. Je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite non pas de comprendre tout ce que je vous ai dit. Je ne prétends pas parler pour être compris. Je ne prétends même pas vous apporter quelque chose. Simplement, si en vous, quelque chose s'interroge un jour et que vous n'avez pas la réponse dans un livre ou de par la bouche d'un proche, essayez de repenser à ce que je vous ai dit. Considérez ce que je vous ai dit. Voyez tous les aspects. Et si cela vous semble une libération, alors vous pouvez y croire. La liberté a cela de beau qu'elle ne s'impose à personne. Parce qu'elle est la liberté et qu'avant tout elle respecte celui qui se veut ou se croit prisonnier. Je vous salue.
Nous saluons et vous remercions.